Bonjour, vous êtes sur BAC FM 106.1 en compagnie d'Elisabeth de la Com, professeure de philosophie. Donc bonjour Elisabeth.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Clément.
Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième émission consacrée à la préparation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Et après avoir planché en compagnie de François Touchard, que nous retrouverons demain sur un texte de Hegel tiré de son esthétique, c'est aujourd'hui sur un sujet de dissertation que nous vous proposons de vous entraîner. Des raisons de croire sont-elles nécessaires ? Tel est notre sujet. Alors Elisabeth, mettons-nous dans la situation qui sera celle de nos élèves lundi prochain. Comment s'attaquer à un tel sujet ?
Alors j'ai choisi de vous présenter ce sujet parce que justement à la première lecture il paraît difficile. Or, je vous conseillerais de bien faire attention à la définition des termes, et cette définition et cette analyse du sujet permet de trouver des pistes pour problématiser et construire son plan. Des raisons de croire sont-elles nécessaires ? Je vois d'abord que ce sujet interroge la croyance. Croire, c'est adhérer spontanément à une idée, lui donner son assentiment sans raison apparente, justement. Mais donc la croyance peut prendre différentes formes, l'opinion, le préjugé, la foi, la confiance. Mais il faut prêter tout de suite attention au sujet parce qu'il n'interroge pas la croyance mais des raisons de croire. Les raisons de croire sont des justifications que l'on pourrait justement invoquer pour justifier sa croyance. Quels sont les mobiles, par exemple, si je m'installe dans un cadre psychologique, les causes, les motifs d'ordre moraux ou les fondements qui expliquent ma croyance. Ensuite, j'ai encore ce terme de nécessité qui est très important et sur lequel on peut jouer justement pour établir notre plan.
Alors là, pour le coup, on peut aussi rappeler que les termes, aussi par exemple le terme de nécessaire, de nécessité qui se trouve dans le sujet, est présent dans les repères, dans les distinctions conceptuelles que les élèves sont censés connaître.
Oui, ainsi que celui de croyance, justement. Alors la nécessité, c'est d'abord soit
On peut définir la nécessité en l'opposant, justement, dans ces repères, ils sont présentés toujours comme des antonymes. Donc,
oui.
Distinguer la nécessité de la contingence,
oui,
et du possible.
Voilà, donc la nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Alors, soit d'un point de vue physique et naturel, factuel, et dans ce cas, être de l'ordre du besoin, donc de l'inévitable. J'ai besoin de croire, d'avoir une croyance de fait. Et donc là, vous voyez aussi qu'il faut définir le terme du sujet dans le sens du sujet. J'ai besoin de croire. Et ensuite, la nécessité peut aussi renvoyer à un ordre moral, à une exigence, à un devoir-être, à un fondement qu'on pourrait ici simplifier par le synonyme indispensable.
Et j'imagine que la difficulté, ça va consister aussi à voir si ces deux sens de la nécessité sont compatibles et sont conciliables.
Oui.
Oui.
Oui. C'est ce que nous verrons à la fin, peut-être en conclusion d'ailleurs, parce qu'il n'est pas toujours facile d'apporter une réponse claire à un tel sujet.
D'accord. Alors aussi une petite précision pour nos auditeurs, pour les élèves. En somme, il est très important de travailler sur les termes du sujet, non pas simplement pour mieux comprendre le sujet, c'est certes essentiel, mais aussi parce que philosopher, ça consiste à travailler sur des significations, sur toutes les significations des mots. Et donc il faut bien en partir de là, ne serait-ce aussi pour ne pas limiter peut-être le traitement du sujet à une seule dimension, et voir qu'au sein même d'un mot, il peut y avoir des difficultés conceptuelles. C'est-à-dire il peut y avoir un même mot peut avoir deux sens, et ces deux sens peuvent ne pas être conciliables. On peut avoir du mal à passer de l'un à l'autre.
Oui, tout à fait. Et je crois qu'une des erreurs les plus courantes et sûrement les plus préjudiciables dans un tel sujet serait de se focaliser, par exemple, sur la foi religieuse, de ne penser qu'à cet aspect-là. Alors, pour dégager une problématique, pour problématiser ce sujet, on peut donc s'aider de la définition des, et de l'analyse de, des termes faits de ce sujet. Par exemple, on peut commencer par dire que celui qui croit, justement, parce qu'il est dans la croyance, n'estime pas nécessaire d'interroger sa croyance, de s'interroger sur ses raisons de croire, parce qu'il a besoin de croire, nécessité au sens de premier terme.
Et on voit aussi sans doute que on est en mesure de concevoir sa croyance comme croyance à partir du moment où on peut distinguer croire de savoir.
Oui. Et justement, là peut apparaître notre deuxième partie. J'ai besoin de croire, mais sans me rendre compte de ce que je crois. Donc du coup, il faut justifier théoriquement pour ne pas être aveuglé par cette croyance. Et cependant, dans une troisième partie, s'apercevoir que si on cherche à justifier et à trouver des raisons de croire, on peut quand même poser la question de savoir si on ne croit pas en la raison, on ne croit pas en la vérité, et si finalement on peut se libérer de cette croyance, ou si elle est une nécessité propre à l'essence de l'homme.
Et on voit aussi toute l'extension du mot raison. On passe du rationnel au raisonnable, et il peut être parfois raisonnable de dépasser la raison.
Peut-être.
Peut-être, en tout cas. D'accord.
Oui.
Alors, est-ce que, Elisabeth, tu peux essayer de formuler pour nos auditeurs, d'une manière un peu ramassée, la problématique ou les difficultés principales du sujet que tu es parvenu à dégager? Précisons que problématique, c'est un terme qui peut sembler un petit peu jargonnant et effrayer les élèves. Il s'agit de rien d'autre que de dégager un problème, c'est-à-dire des difficultés, des obstacles qui nous empêchent de répondre immédiatement à la question qu'on nous pose.
Je dis souvent à mes élèves que le sujet est une question, parce qu'une question n'est pas évidente et que du coup elle présuppose certaines idées qu'il faut mettre à jour. Ce n'est pas parce que j'ai une question que la question est évidente, donc il faut que j'essaie de voir quels sont les problèmes, les présupposés implicites que soulève cette question. Et ici, le fil directeur que l'on pourrait trouver pour ce sujet serait de se demander si la croyance est plus qu'un simple aveuglement et si elle est au contraire une adhésion à quelque chose qui se situerait au-delà de la raison et au-delà de toute justification rationnelle.
Très bien. Alors, est-ce que tu demandes à tes élèves qu'ils annoncent un plan ? Ou est-ce que là-dessus, tu es plus lâche? Il y a deux écoles, un peu soit l'annonce de plan est obligatoire, soit au contraire, en somme, l'élève peut s'en dispenser à condition que son plan, son développement soit bien organisé et que finalement les grandes thèses apparaissent.
Je dis à mes élèves que l'annonce du plan est facultative parce qu'il est difficile, d'annoncer son plan sans déjà répondre au sujet, voire à la problématique que l'on vient de soulever, ce qui paraît parfois un peu artificiel. Donc, je leur dis que l'annonce du plan est facultatif, mais que par contre, s'ils choisissent de ne pas l'annoncer, d'être bien clairs quand ils annoncent leur première partie, puis leur deuxième partie, puis leur troisième partie, pour que l'on puisse bien suivre le cheminement de leur pensée, à l'intérieur même du développement.
D'accord. Alors on va se lancer dans la première partie, dans le développement. Si j'ai bien donc compris ce que tu nous as dit, pour l'instant en introduction, on va partir d'une nécessité de fait.
Voilà.
En somme, ne sachant pas tout, on est bien obligé de s'appuyer sur des opinions, de s'appuyer sur seulement des croyances pour nous guider dans l'existence, pour avancer.
Voilà, c'est tout à fait ça. Il me semble d'abord que l'on a besoin de croire parce que on a besoin d'avoir confiance en la vie, on a besoin de croire que l'on peut, comme tu le dis très bien, avancer. J'avais envie de prendre pour les élèves l'exemple de Parcoursup. Si je prends Parcoursup, on m'a demandé de faire des vœux. Or, faire des vœux, c'est être confronté à un choix, à une prise de décision, mais justement dans la vie il y a de l'incertitude et je ne sais pas finalement si j'ai choisi la bonne école, si j'ai bien fait les vœux qui correspondent le plus à ce que j'aime, mais pourtant il fallait absolument faire ces vœux sur Parcoursup et l'on voit que l'incertitude de l'avenir nous oblige à croire que l'on a fait le bon choix. ces raisons de croire peuvent malheureusement nous amener à regretter nos choix. Là, il y a eu les résultats les réponses des écoles qui sont arrivées, et certains élèves ont été très déçus de se retrouver sur liste d'attente. On voit que dans la vie, il faut avancer, croire, mais il faut aussi éviter les regrets et les remords. Et c'est justement ce que nous apprend Descartes lorsque, dans la deuxième maxime de la morale provisoire, il imagine un homme perdu dans la forêt qui...
Alors, si ça ne te dérange pas, Elisabeth, on va prendre le temps de lire un passage
du
discours de la méthode. On est dans la troisième partie. Et la troisième partie commence ainsi. Alors, précision pour l'auditeur, Descartes fait des phrases toujours très longues. Faut s'accrocher. Et enfin, comme ce n'est pas assez, avant de commencer à rebâtir le logis où on demeure, que de l'abattre ou s'exercer soi-même à l'architecture, et outre cela d'en avoir soigneusement tracé le dessin, mais qu'il faut aussi s'être pourvu de quelque autre où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera, ainsi, afin que je ne demeurasse point irrésolu en mes actions, pendant que la raison m'obligerait de l'être en mes jugements, et que je ne laissasse pas de vivre dès lors le plus heureusement que je pourrais, je me formais une morale par provision qui ne consistait qu'en 3 ou 4 maximes dont je veux bien vous faire part. Alors je saute directement à la deuxième maxime qui est celle qui nous intéresse ici. Ma seconde maxime, poursuit Descartes, était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais, et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serais une fois déterminé, que si elles eussent été très assurées. Et je poursuis encore un petit peu, imitant ceci, c'est ce que tu disais tout à l'heure, les voyageurs qui, se trouvant égarés en quelque forêt, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter en une place, mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne les changer point pour de faibles raisons, encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les ait déterminés à le choisir. Car, par ce moyen, s'ils ne vont justement où ils désirent, ils arriveront au moins à la fin quelque part, où vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Donc on est dans le milieu d'une forêt.
Ce qu'il y a de très intéressant dans la référence à Descartes, c'est ce terme de résolution. Les raisons de croire sont justifiées si l'on est résolu. C'est un effort de la volonté il faut s'y tenir. J'ai fait un choix, je dois m'y tenir. Et cela ne veut pas dire ne pas pouvoir rebrousser chemin. Mais pour éviter les regrets, il faut savoir si le chemin que l'on a choisi est le bon ou le mauvais. Donc on a besoin de croire pour faire des choix. Et on a aussi besoin de croire que son choix est le bon. Pour être heureux, dit Descartes. Mais malheureusement, ici, vous voyez qu'il s'agit d'une croyance maîtrisée, alors que la plupart du temps, nos raisons de croire sont beaucoup plus cachées, beaucoup plus peut-être inavouables même. Nous sommes davantage tentés de croire en quelque chose lorsque nous espérons l'obtenir. Et là, nous pouvons nous faire des illusions, c'est-à-dire croire que l'on peut l'obtenir parce qu'on désire l'obtenir, dit par exemple Freud dans L'avenir d'une illusion. Ce qui est prévalent dans cette croyance que serait l'illusion, c'est que c'est que le désir dessine en quelque sorte la forêt dans laquelle nous sommes, les arbres que nous avons. Donc nous ne sommes plus dans une forêt réelle, mais une forêt imaginaire. Donc là, on pourrait dire que des raisons de croire ne sont pas vraiment nécessaires au sens où on n'en a pas besoin pour vivre. Parce que là, il ne s'agit plus d'une vie où on est acteur de sa vie, mais d'une vie qui nous est imposée par des désirs d'ordre pathologique qu'on ne maîtrise pas et que l'on subit.
Donc à bien distinguer de cette résolution cartésienne, on est pris finalement dans la forêt de l'opinion, il faut bien qu'on sorte de la forêt, il faut bien qu'on aille quelque part, on ne sait pas où aller. Et donc ce qui vient sauver finalement le côté contingent du choix, puisqu'il n'y a aucune raison suffisante pour choisir, c'est cette résolution. Et ce sera une bonne décision parce qu'on l'a prise de manière résolue et parce qu'on s'y tient, et comme dit Descartes, qu'on ne va pas en changer pour de faibles raisons.
Voilà, la résolution n'est pas l'obstination. Si effectivement je vois que j'ai pris un mauvais chemin, je dois au contraire modifier donc mon itinéraire et changer de vie et être maître et acteur de ma vie. Contrairement à cette autre forme de croyance dont nous pouvons avoir besoin et qui là nous perd et nous maintient dans un mensonge.
D'accord. Alors il faudrait du coup aussi distinguer finalement cette résolution cartésienne, alors qu'on est pris dans l'opinion, qu'on n'a pas encore construit l'édifice du savoir qui nous permettra de sortir de cette morale provisoire. Il faut distinguer donc cette opinion de l'illusion,
oui,
aussi, du désir aussi un petit peu que nos espoirs se réalisent, de prendre ces désirs pour des réalités.
Tout à fait.
Et de tomber dans une illusion. L'illusion, donc, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une erreur qui ne se dissipe pas parce qu'on a besoin de cette erreur pour vivre.
Oui.
En somme. Donc, ce serait une nécessité vitale. On a besoin, quoi qu'il en soit, de croyances qui ne sont jamais ultimement totalement fondées en raison. Donc, il faudrait distinguer toutes ces causes. D'une part, donc nécessité de fait, et puis presque nécessité psychologique. En somme, si j'ai bien compris.
Oui, mais qui reste pour moi de l'ordre de la nécessité de fait, qui ne sont pas encore des justifications ou des raisons au sens strict de croire. Une justification au sens rationnel.
Et pour commencer à soulever une difficulté, puisqu'en somme, c'est ça qu'on attend aussi de l'élève, un philosophe, c'est quelqu'un qui a l'art de poser des problèmes, de soulever des difficultés. Pour faire une transition vers notre deuxième partie, avant de marquer une petite pause musicale, au fond, on pourrait peut-être s'appuyer sur la superstition.
Tout à fait.
On a la superstition, c'est un peu la croyance en des forces mystérieuses qui surgirait à l'occasion d'un acte. La superstition aussi, c'est dangereux.
Tout à fait. Et puis en plus, elle est justement alimentée par ses peurs, par ses désirs, par ses passions. On peut penser bien sûr à l'avenir d'une illusion de Freud qui s'attaque justement à l'illusion de Dieu le Père. Mais j'ai retrouvé aussi une citation de Spinoza qui traite directement de la superstition et que je trouve peut-être plus en accord avec notre discussion. Nous sommes disposés par nature, dit-il, à croire facilement ce que nous espérons et difficilement, au contraire, ce dont nous avons peur. Et c'est parce que nous avons tendance à avoir peur que nous avons tendance justement à créer ce que Freud plus tard appellera des illusions consolatrices. Un besoin de croire en un Dieu qui représente en fait le désir infantile d'être protégé par son père. Et qui, quelque part, nous maintient dans une aliénation infantile, dans un manque de responsabilité pour prendre sa vie en charge. Et donc, à ce moment-là, moi, c'est ce que je dirais en transition, que, à cause de ce besoin de croire dont on peut être victime parce qu'il nous maîtrise plus qu'on ne le maîtrise quand il est désir, plus ou moins conscient, passion, peur, espoir. Je rappellerai la citation de Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. On ne peut pas contenter de cette crédulité, de cette superstition, de ces croyances non fondées. Il faut fonder théoriquement nos croyances.
Très bien. Donc avant d'aller plus loin dans le développement de cette thèse, de cette deuxième partie, on va marquer une première pause musicale, l'occasion d'écouter du bon son. Et c'est Théodore Haye, dit Walcott, qui prend le relais sur les ondes de Bac FM, le titre du morceau « Seul au monde ».
Hey, ma plume te caresse, mes rimes sont carrées. Ça me critique sans cesse, le fer à dire, laisse les parler. La jalousie t'appelle dans la soirée parce que j'ai le panacheux et toi le panaché. Le rap me protège de tous mes litiges. Parfois je me perds et laisse un sentiment amer. J'ai vu des gars faire de la merde et ramasser avec leurs tiges. Ouais, la vie c'est quoi? La vie c'est ça, non? La vie c'est ça, quand je rentre en salle, je bosse à fond avec mes kilos sur le dos. Je suis la pièce maîtresse comme le roi Salomon, quelques centaines d'abonnés et moi je suis seul au monde. Et si seulement ça pouvait se finir autrement? Et si seulement ça pouvait déjà commencer? J'ai beaucoup de rivalités comme le mercato. À défaut parfois d'oublier la mercaton. Et je marque un temps, et je marque un temps.
Non. J'apprends mes erreurs aux aurores, ouais tu connais. Attends, j'ai l'humeur du bonheur et la peur, je vais canner. Elle est bonne, rend débile, elle m'abîme comme la bœuf. Elle est bonne, rendez bien ma pile comme un bloc.
A deux, on s'évade vers une allée platane. T'écoutes ma poésie et tu pavanes. La solitude t'a qu'à la porte, tu me barres de la sevran. J'ai côté rappeur flotte copié, ça c'est franc. Et ça c'est pas ce retien qu'électrode, c'est mon procédé. Me devenir procédure, écoute ma procédure. Pas besoin d'un spliff pour que ma prose perdure. Je te fais valser sur une musique classique. Je reste unique et pas laxiste. Le stylo Bix fin sans d'encre. Je prends mon pied quand il se doit sous mes textes. Écoute pas la tendance. Tard, plus j'aurai mon fiac sans faire de sacrifice, fils. Fais attention à l'extérieur. Si tout ça te paraît beau, c'est que t'as pas vu l'intérieur. Je connais les ruelles sombres, la ville et ses démons. Les filles et leurs pardons, ferme les yeux, écoute ALA. À la fois le temps passe, à l'ancienne tu me disais ALA des qualités, mais t'as fait des fautes, t'as des fautes à personne. J'ai beaucoup d'amitié, mais besoin de personne. La vie est une traversée, choisis ton embarcation et ton équipage. J'écris mes versets qui affectent mon inspiration sur ma page. J'ai dit, la vie est une traversée, choisis ton embarcation et ton équipage. J'écris mes versets qui affectent mon inspiration sur ma page.
J'apprends mes erreurs aux aurores, ouais tu connais. Attends, j'ai l'humeur du bonheur et la peur, je vais canner. Elle est bonne, rend débile, elle m'abîme comme la bœuf. Non, elle est bonne, rend débile, elle m'abîme comme la bœuf. Oh my god. J'apprends mes erreurs aux aurores, ouais tu connais. Attends, j'ai l'humeur du bonheur et la peur, je vais canner. Elle est bonne, rend débile, elle m'abîme comme la bœuf.
Comme la bœuf.
Elle est bonne, rend débile, elle m'abîme comme la bœuf.
Vous êtes toujours sur Bac FM 106.1, toujours aussi en compagnie d'Elisabeth et de Clément, et vous venez d'écouter Seul au monde de Walcott. Des raisons de croire sont-elles nécessaires? Alors, nous avons problématisé, nous avons fait l'introduction de ce sujet de dissertation, on a commencé à développer la première thèse, on est finalement en plein milieu du plan, presque en plein milieu du plan. Et tu viens de nous dire, en somme, Elisabeth, si je résume à grands traits cette première partie, qu'au fond, il y a quelque chose comme une nécessité qui nous pousse à croire. Il y a une nécessité de croire, nécessité au sens de besoin. Nécessité vitale, on ne peut pas, c'est indispensable. En somme, pour autant, si c'est nécessaire, il faudrait tout de même essayer de justifier rationnellement ses croyances. Là où je veux en venir, au fond, c'est que croire à tout et n'importe quoi, d'une part, ça peut mener à la superstition, et plus encore, au fanatisme. À quelqu'un qui serait totalement aveugle, et la croyance mènerait donc à un aveuglement.
Tout à fait. Et c'est là qu'on pourrait même penser aux fans des grands artistes qui leur vouent un culte, qui les idolâtrent et qui donc oublient pratiquement que ce sont des hommes et non plus des dieux. Et peut-être même qu'au-delà de ces personnes, ils aiment et croient davantage en trouver une réponse à leurs questions que cette personne ne peut pas leur apporter. De la nécessité donc qui est inévitable, cette nécessité de croire, parce que je suis un individu perdu, malheureux, seul, qui a besoin de croire pour des raisons psychologiques. Il nous faut cette fois-ci envisager des raisons de croire plutôt indispensables comme remettre en cause justement cet aveuglement.
Parce que là, avec le fanatisme, ouais. Non seulement ce n'est pas rationnel, mais en plus, ce n'est pas raisonnable.
Tout à fait. Donc il y a vraiment une justification des raisons de croire, une exigence et théorique et morale à les interroger.
Et tu partais tout à l'heure de Socrate qui est considéré comme le père de la philosophie, et quand même, le fond de la philosophie, ça consiste à revenir sur nos présupposés, sur nos préjugés, sur toutes les idées qu'on a dans la tête et qu'on n'interroge pas. Si on avait à définir finalement quel est l'objectif de la philosophie en classe de terminale, c'est quand même ce travail de réflexion, de développement du sens critique, remettre en question toutes ces idées qu'on a dans la tête. Et donc c'est ce que fait Socrate en nous disant qu'une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue.
Alors pourquoi peut-on là parler du préjugé, de cette croyance comme préjugé? Parce que tout à l'heure, quand nous étions dans le désir, dans la croyance, nous étions dans un besoin de croire qui parfois ne s'apercevait pas lui-même de ce besoin. Le préjugé peut parfois être plus volontaire, plus dangereux d'un point de vue théorique, parce que le préjugé se donne de mauvaises raisons pour être des bonnes raisons. Et il s'agit quelque part de rendre nécessaires ces raisons de croire que sont les préjugés en se mentant et en appartenant à un groupe contre un autre groupe. Et si cette croyance n'est pas interrogée, là on tombe dans une autre forme d'aveuglement. L'absence pour comprendre le préjugé, on peut partir d'un exemple. Tu n'as aucune raison de croire, dit un enfant à sa mère, que je préfère papa à toi. C'est là que l'on... Donc, tu n'as aucune raison, finalement, de me disputer, parce que je t'aime autant. C'est là que l'on peut voir que, finalement, on interroge ces préjugés quand l'autre est capable de nous ouvrir l'esprit. Parce que sinon, on a tendance à s'enfermer dans nos opinions, justement dans nos croyances, d'en croire ce qui nous arrange. Et donc, des raisons de croire, justement, sont nécessaires parce que ça nous arrange, mais en même temps, on se ment soi-même. Et on a besoin, de cette fois-ci, d'examiner nos préjugés pour s'en libérer. Et on peut s'en libérer en étant interrogé de façon presque maïeutique par un autre.
Alors, le risque aussi, c'est que, à la suite de cet examen, on parvienne à une réponse. Réponse qui risquerait, si on ne l'interroge pas à nouveau, de devenir un nouveau préjugé. Ce à quoi je pense, c'est une citation de Merleau-Ponty dans Éloge de la philosophie, qui en somme permet d'expliquer ce travail philosophique, ce qu'on attend d'un élève dans une dissertation. Merleau-Ponty écrit « Ce qui fait le philosophe, c'est le mouvement qui reconduit sans cesse du savoir à l'ignorance, de l'ignorance au savoir, et une sorte de repos dans ce mouvement. » Donc il y aurait peut-être aussi quelque chose d'illusoire dans le fait de croire, et de dangereux dans le fait de croire, et bien dans la croyance, qu'on pourrait parvenir à une raison définitive qui nous ferait sortir de la croyance.
En quelque sorte, oui, parce que finalement, on s'aperçoit aussi que lorsqu'on est dans le préjugé, justement, on n'interroge pas sa croyance, il faut que l'autre vraiment nous l'interroge, nous questionne, nous pose un débat. C'est à ce moment-là qu'un d'un point de vue épistémologique, on peut interroger ses propres préjugés. Peut-être que seul, on ne peut pas se libérer de ses croyances, de ses préjugés.
Alors, Socrate est toujours sur la place publique, en train de discuter avec les personnes qu'il rencontre. Hein. Dans le Phèdre, il nous dit, on comprend que Socrate n'est jamais sorti, presque, ou à de rares occasions, pour aller combattre à Potidée, de la cité athénienne. Il nous dit, les arbres n'ont rien à m'apprendre. Et donc, il a à apprendre uniquement dans le dialogue, dans la discussion, dans la confrontation d'idées. Il faut aller frotter sa cervelle contre celle d'un autre. En somme, pour reprendre une phrase, si je me trompe pas, de Montaigne. Et pour autant, un philosophe qui va essayer de fonder le savoir en certitude, qu'on a déjà évoqué, c'est Descartes. Et Descartes, pour fonder l'édifice du savoir, pour fonder la science, pour parvenir à des certitudes, lui, au contraire, s'isole. Il s'isole dans son poêle, il prend une retraite, alors peut-être que c'est un dialogue de soi à soi, et non un dialogue avec l'autre.
Oui, alors, disons que Descartes veut trouver une certitude. Et pour cela, il veut éliminer toute forme de vraisemblance, toute forme de préjugé, et finalement veut arriver relativement rapidement à trouver une vérité dans les sciences. Il a des découvertes à publier. Il est assez sûr de son fait, de ses réussites au niveau de la vérité. Donc il lui faut une méthode, et cette méthode consiste effectivement à éliminer les opinions, non pas interroger ceux qui prétendent savoir, comme le fait Socrate sur la place publique, parce que Descartes estime qu'il n'a pas le temps d'examiner une par une toutes les opinions, et que cela prendrait même un temps infini. Donc, au contraire, il est partisan d'une méthode radicale qui lui permettrait de remettre en doute, non pas une par une, chaque opinion dans une discussion à deux, mais qui lui permettrait d'éradiquer toute la nature des connaissances, toutes les formes qu'elles peuvent recevoir. Donc, par exemple, il va commencer par éliminer la connaissance sensible, sous le prétexte, justement, des illusions. Alors, bien sûr, il suffit que je me trompe une fois, dit Descartes, pour que je rejette tout ce qui m'est apparu comme certitude sensible. De même pour les démonstrations. Il suffit d'une erreur pour que je rejette tout ce que j'avais, toute certitude rationnelle. Et à l'issue de ce doute radical, il utilise un argument des sceptiques, de ceux justement qui croient parce qu'ils ne sont certains de rien, l'argument du rêve. Descartes dit « si je peux avoir les mêmes sensations en rêve qu'à l'état de veille, qu'est-ce qui me garantit qu'en ce moment je ne suis pas en train de rêver ? Qu'est-ce qui me garantit qu'en ce moment, parce que j'appréhende justement de passer à la radio sur Bac FM, de rêver pour en quelque sorte me préparer dans mes rêves à être là ? Qu'est-ce qui me le garantit, puisqu'il m'est arrivé, si je prends l'exemple de Descartes, de me croire assis au coin de mon feu, de sentir le papier entre mes mains, de sentir la chaleur du feu, je me suis réveillée, tout cela n'était qu'un rêve. Donc si l'on peut avoir les mêmes sensations en rêve qu'à l'état de veille, rien ne nous garantit que ce qui nous entoure n'est pas qu'une illusion de nos songes. Donc, dit Descartes, tout peut être trompeur. Mais, et c'est là qu'il arrive à une première certitude, même si je doute que tout est faux, il y a une chose de certaine, dit-il, c'est que je pense que tout est faux. Donc il arrive à cette certitude inébranlable, que même les sceptiques, dit-il, ne peuvent pas ébranler, un premier principe indubitable selon lequel j'ai une première certitude, une vérité qui est... absolument certaine et qui ne relève pas du tout de la croyance, qui au contraire s'est construit contre toute croyance. Cette première certitude, en philosophie, nous l'appelons le cogito, le fameux « je pense, donc je suis, cogito ergo sum ». C'est une première certitude indubitable, hors de doute, qui n'est pas de l'ordre de la croyance.
Donc on a une première certitude, on commence à toucher donc du sol, à toucher quelque chose de solide. Est-ce qu'à partir de cette première certitude, on va pouvoir en déduire d'autres, aussi certaines ? Et est-ce que ces certitudes qu'on va pouvoir obtenir, en somme, vont permettre de donner une réponse ou vont permettre de guider celui qui est toujours perdu dans sa forêt ou celui qui est toujours en attente sur Parcoursup d'une réponse ? Est-ce que les certitudes que la science, au fond, peut nous donner vont nous permettre d'agir ? D'aller de l'avant, de nous guider.
Alors, oui, on peut en fonder en tout cas l'espoir. Seulement, tout à l'heure, finalement, on retrouve un petit peu la citation de Merleau-Ponty. Le problème des... Alors, déjà, pour répondre à la première question, il est vrai que le cogito, c'est aussi un critère de vérité pour Descartes. Sera vraie toute idée claire et distincte, et non pas qu'ils m'apparaissent confuses comme finalement mes sentiments, mes peurs. Et c'est cette certitude, elle est l'objet d'une intuition intellectuelle. En même temps que je pense, je sais que je suis. Mais je peux découvrir en moi qu'il y a d'autres idées, et notamment une idée de Dieu, une idée d'un être parfait et infini. Et à partir de cette idée de Dieu, Descartes se dit « mais comment se fait-il que moi qui doute, donc qui suis imparfait, puisse concevoir cette idée du parfait ? C'est bien que Dieu existe, puisque sinon lui manquerait une perfection. »
Oui, mais est-ce qu'on peut finalement, de la nécessité d'une idée, en conclure à la nécessité de son existence ? On pourrait dire au fond l'existence d'une chose, et donc l'existence de Dieu, et pas seulement sa pensée. En somme, c'est quelque chose qui se constate, c'est quelque chose qui s'observe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déduire simplement à l'aide d'un raisonnement.
Alors, on dit que Descartes a repris cet argument de saint Anselme, lui-même qui avait été critiqué par saint Thomas d'Aquin, et puis Kant a critiqué ce qu'on appelle l'argument ontologique donné par Descartes, qui nous dit que Dieu existe parce que dans l'idée de Dieu est contenue l'idée de perfection. Dieu, par définition est parfait. Donc si Dieu existe, il existe parce que sinon il lui manquerait une perfection. Donc Dieu ne peut pas ne pas exister. Voilà une des façons dont Descartes a essayé de démontrer l'existence de Dieu. Et pour lui, il sent la présence de Dieu en lui, de cette idée. Il part de là. Donc je ne suis pas sûre que ce que Kant lui reproche, on peut constater une existence et ne pas la déduire d'une essence, soit parfaitement convaincante dans ce cas, parce que Dieu apparaît au cours d'une méditation rationnelle, d'un effort de justification.
Alors, sans rentrer après dans ces discussions-là, qui se relèvent plus après de l'expertise philosophique, presque,
oui,
que ce qui peut, permettre à nos élèves de construire une dissertation le jour du baccalauréat, on leur en demande en somme pas tant. Mais au fond, est-ce que, de manière provocante, en somme, pour dire les choses, est-ce qu'en voulant chercher une certitude indubitable, est-ce que Descartes n'a pas une croyance, finalement, quelque peu, alors sans doute raisonnable, et encore, peut-être qu'elle est discutable, n'a-t-il pas une croyance en la raison, que la raison ne peut pas elle-même justifier, si ce n'est en disant qu'on a besoin d'essayer chaque fois de fonder nos croyances? Et est-ce qu'on ne pourrait pas plus simplement se dire, une compréhension de la rationalité ou de la raison plus humble, plus modeste, en somme, est rationnel, tout ce qu'on n'est pas encore parvenu à remettre en question. C'est ce que l'épistémologie actuelle tendrait à nous apprendre. En somme, une connaissance est vraie tant qu'on n'est pas parvenu à montrer qu'elle est fausse. Et donc, plutôt que de s'appuyer sur l'édifice du savoir avec des fondations inébranlables, on pourrait se contenter de vérités qui, pour l'instant, semblent solides.
Oui. Et d'ailleurs, en transition, on pourrait insister sur cette idée que finalement, la certitude du cogito, la certitude de l'idée claire et distincte, la certitude des opérations intellectuelles telles que l'intuition, la déduction, sont des croyances en la capacité de la raison à découvrir la vérité, sont même une croyance que la vérité existe. Et justement, on peut quand même se demander s'il n'y a pas une croyance qui là est encore dupe d'elle-même. Enfin, c'est finalement, on a voulu interroger nos croyances en essayant de s'en libérer. Elles n'apparaissent plus nécessaires et elles ne font que ressurgir davantage.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire en une formule, en somme, trop de croyances nous aggraveraient, peut-être trop de raisons risqueraient aussi de nous aggraver.
Tout à fait.
Un trop grand désir de raison risquerait de nous aggraver.
Oui.
Alors, comme le cerveau est un muscle qui a besoin de se reposer, ce que nous vous proposons, donc, avant de terminer le développement de notre dissertation et d'en venir à une troisième partie, ce que nous vous proposons, c'est d'écouter un morceau de Thin Lizzy intitulé Renegade.
He's a rebel that has fallen down. He's a fool that blown away. To you and me, he's a renegade. He's a clown that we put down. He's a man that doesn't fit. He's a king, but not in this town. To you and me, he's a renegade. But he is a king when he's on his own. He's got a mic, and that's his throne. And when he writes, he's like the wind. To you and me, he's a renegade.
get out. Check his face. Look in his eyes. They're so sly. I wonder why he cries from the inside. I wonder why he's a renegade. Oh, please. Heed my call. He's just a boy that has lost his way. He's just a boy, that's all.
Nous revoilà sur Bac FM dans la troisième et dans le troisième pardon et dernier temps de notre seconde émission consacrée à la préparation de l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Il s'agit maintenant d'en venir à la troisième partie, à la partie on peut dire conclusive de notre développement, où il s'agit de dépasser les difficultés précédentes. En somme, je les résume. Quoi qu'il en soit, on a besoin de croire, mais c'est un besoin qui risque de nous aveugler. Autrement dit, il faut justifier rationnellement nos raisons, enfin trouver des raisons à nos croyances pour qu'elles ne soient, nous mènent pas à la superstition, au fanatisme. Mais pour autant, est-ce qu'un excès de raison ne risquerait pas aussi peut-être de nous désespérer, d'une part, parce qu'on n'y parviendrait jamais? Peut-être que on serait proche de la folie finalement à vouloir être trop rationnel. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à défendre l'idée qu'il y a quelque chose comme un au-delà de la raison qui ne serait pas irraisonnable, non raisonnable?
Oui. Et il faudrait déjà peut-être répondre à cette question sur la science aussi et le progrès scientifique. Et par exemple, on peut se demander, avec Hume par exemple, comment se fait-il que l'on est certain que le soleil se lèvera demain? Alors bien sûr, il sait bien que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, c'est nous qui le voyons ainsi, hein. Mais comment, sur quoi fonder nos certitudes de l'avenir? Et pour Hume, il faut donc distinguer les vérités de raison qui, elles, sont formelles et nécessairement vraies, des vérités d'expérience où, justement, il y aura toujours de la contingence, où l'on sera toujours confronté, du coup, à des généralisations, où il y a des exceptions, où l'on n'aura jamais de certitude inébranlable, justement, quand on a affaire à la science, et c'est ce que confirme effectivement la science moderne.
Et là, finalement, on revient sur une idée qu'on avait pu voir en première partie, mais on la retrouve après avoir travaillé sur cette deuxième partie, et donc c'est une idée qui est désormais justifiée.
Oui.
Propulsée à un autre niveau.
Oui, à une interrogation sur les valeurs mêmes de nos connaissances. Finalement, quand je crois à la vérité, quand je crois à la relation de causalité qui est une des bases de la science, est-ce que je ne suis pas encore dans la croyance? Et de quelle raison, finalement, sur quelle raison appuyer ces croyances? Ce que nous dit Hume, c'est que finalement, pourquoi est-ce que je crois que demain le soleil se lèvera? Non pas parce que Il dit que finalement, il n'est pas contradictoire de penser qu'il ne peut pas se lever. Et effectivement, dans quelques milliards d'années, ceux qui disent que Hume dit n'importe quoi seront vraiment des imbéciles, puisqu'ils seront brûlés vifs.
C'est possible.
Tout à fait.
Ce sont des vérités d'expérience et pas des vérités de raisonnement pur. On n'est pas dans la logique,
mais dans le fait. Absolument pas. Exactement. Donc, dans ces vérités d'expérience, il y a de la contingence, il y a des habitudes. Finalement, pourquoi j'affirme que le soleil ne se lèvera pas demain? Parce que j'ai l'habitude, et de mémoire d'homme, on a toujours vu le soleil se lever le lendemain. Donc, la causalité sur laquelle se basent les sciences et les certitudes, les sciences dites exactes, qui ne sont pas basées sur des croyances, bien sûr, hein, qui sont objectives et rationnelles, se basent sur cette causalité qui nous dit que toute cause produit nécessairement tel effet. Une cause produit nécessairement tel effet. Finalement, ce que nous dit Hume, c'est que s'il y a de la contingence, le soleil ne se lèvera pas demain, et que si je dit qu'il se lève, je ne le sais pas, mais je le crois. Donc, tout notre savoir, notre science est basée sur une habitude, sur une croyance qui relève même presque de l'ordre de l'instinct. Et cette habitude psychologique ne nous mène cependant pas à un pur scepticisme qui nous dirait mais finalement tout n'est que croyance, rien n'a d'importance.
Donc un scepticisme qui nous mène à un relativisme, à un plat relativisme.
Voilà, et un relativisme stérile, hein, tout se vaut, rien n'est vrai. Parce que ces croyances sont donc basées sur des habitudes et mathématiquement, on peut avoir des probabilités, des calculs de probabilités qui nous diraient, par exemple, pour reprendre notre exemple, qu'il y a 99,9999 chances sur 100 que le soleil se lève demain. Donc c'est une croyance, certes, puisque je ne peux jamais vérifier avec exactitude une vérité d'expérience puisqu'il y a de la contingence, mais c'est une croyance hautement probable. Et ce qui finalement fonderait nos raisons de croire plus que la raison, plus que des certitudes inébranlables comme le voulait Descartes, serait plutôt des probabilités. Plus ma raison est peu convaincante et a peu de chances de se produire comme le miracle, moins elle a de chances d'être vrai, et plus elle est de l'ordre d'une croyance plus ou moins fondée. Et vous avez bien compris que Hume émet un doute plus que certain sur le miracle qui est le fait unique. Cependant, ce que nous dit aussi Hume, c'est qu'au niveau de la vie, pour bien se diriger dans la vie et faire ses vœux sur Parcoursup, donc, pour prendre notre exemple, il faut aborder plutôt un scepticisme modéré. Je ne peux pas, par exemple, me mettre à douter que le pain qui m'a nourri hier me nourrira aujourd'hui, prend-il comme exemple. Il faut faire confiance, avoir une certaine confiance, et là où l'on voit même que la croyance fait partie de notre nature, qui serait presque de l'ordre de l'instinct. Donc nous en sommes arrivés à...
Là on peut distinguer peut-être le rationnel du raisonnable.
Oui.
C'est-à-dire on n'arrive pas à le fonder en raison, mais on est bien obligé, pour être raisonnable, de s'appuyer sur de se fonder en somme sur l'habitude. Et
oui,
c'est quelque chose qui est valable aussi au niveau moral. En somme, c'est-à-dire que ce que nous dit, il me semble, Hume, c'est qu'au niveau de nos jugements moraux, qui portent sur le devoir-être, en somme, on ne peut pas passer de l'être au devoir-être. Et lorsque on dit que quelqu'un qui se comporte mal est dans l'erreur, ça ne convient pas non plus. C'est-à-dire c'est simplement à partir de nos sentiments qu'en réalité, on porte, et de nos habitudes aussi sans doute, qu'on porte un jugement sur le comportement plus ou moins raisonnable d'un individu. Donc Hume met à mal le pouvoir de la raison, et d'ailleurs beaucoup de philosophes ne se sont pas gênés pour le lui reprocher.
Oui, il met à mal le pouvoir de la raison, mais en même temps, je trouve important chez Hume de noter que même si la raison est mise à mal, il y a quand même une certaine intelligence, puisqu'il base quand même les croyances et la valeur des croyances sur les probabilités. Je trouve quand même que Hume ne défend pas un irrationalisme ou une croyance fanatique. Parce qu'après tout, peut-être que croire en la raison comme ne pas du tout y croire, c'est une façon de tomber dans le même défaut.
D'accord. Alors, est-ce que, sans allonger de manière trop importante notre troisième partie et la durée de notre émission, il y a sans doute quelque chose d'important dans ce sujet. Lorsqu'on parle de croyances, on est presque immédiatement poussé à penser aux croyances religieuses. Oui. Est-ce que, donc à la foi, est-ce qu'en somme, la foi ne pourrait pas de manière légitime prétendre dépasser la raison? Et puisque si on peut réduire la foi à la raison, il n'y a plus besoin de foi.
On pourrait parler peut-être chez Hume d'une foi contradictoire dans les probabilités, puisque la probabilité va avec quand même l'incertitude. Mais par exemple, Pascal est aussi un philosophe ici qui pourrait être intéressant, parce que lui, dans De l'esprit géométrique, donc en s'attaquant à la géométrie et aux démonstrations géométriques, a montré que la raison ne peut pas tout démontrer. Il y a des premiers principes qui sont indémontrables, donc la raison n'est pas toute puissante. Donc finalement, je ne peux jamais démontrer ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas. Donc Dieu relève de la foi et du cœur, dit Pascal. Le cœur a ses raisons que la raison ignore.
Pour le coup, une citation que nos élèves, la plupart du temps, connaissent.
Oui. Oui.
On pourrait aussi penser à une autre référence de Pascal qui est connue, celle du pari.
Oui, tout à fait. On ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, il faut parier sur son existence. Et dit-il à l'athée, tu n'as rien à perdre, bien au contraire. Mais je crois, mais je ne me rappelle plus vraiment les détails, mais il y a, je crois, des petites erreurs de raisonnement au niveau du pari chez Pascal.
On trouve un Pascal ici intéressé, hein, le Pascal joueur.
Tout à fait, libertin.
Le Pascal libertin, oui, de sa période mondaine, qui tire fruit de sa période mondaine pour ensuite réfléchir, et on lui reprochera aussi, à ces questions de foi et de croyance.
Et de calcul de probabilité pour le jeu.
Pour le jeu, oui. Finalement, une autre référence aussi, on peut dire aux élèves qu'il ne faut pas multiplier les références. Une dissertation, ce n'est pas un catalogue d'idées, ce n'est pas un catalogue de références. Il s'agit de mobiliser des références pour problématiser, pour réfléchir, pour, prolonger en somme son argumentation, en laissant toujours croire au correcteur que c'est d'abord l'élève, c'est d'abord nous qui avons eu l'idée, et que tiens, par chance, il se trouve qu'il y a un auteur qui lui aussi avait déjà eu cette idée-là. Un autre auteur, donc, ce serait aussi Kierkegaard, qui a cette formule, je crois qu'il la reprend, faut aller croire contre la raison, en somme.
Oui, si la raison n'est pas toute puissante, justement, si les certitudes, s'il n'y a pas de certitude inébranlable, il y a donc toujours une place pour la foi, pour la croyance. Et justement, Kierkegaard, en reprenant, je crois, Tertullien, disait « je crois parce que c'est absurde ». Et justement, on peut distinguer ici une nécessité de l'ordre du... après une nécessité de morale théorique. On a là finalement une absence de raison, quelque chose de l'ordre de l'irrationnel, mais ce n'est pas du non-sens. Oui. Un saut, tout à fait. Ou bien, disait aussi, pour reprendre un titre de Kierkegaard.
Et finalement, toutes les raisons, les absences de raison de croire qu'on a pu voir depuis le début de la dissertation, reste, quoi qu'il en soit, compréhensible, intelligible et en ce sens rationnel.
Il me semble
autrement
qu'il
dit,
y a...
on peut comprendre que ce soit par une nécessité psychologique, parce qu'on est vraiment désespéré et qu'il faut s'accrocher à quelque chose. On peut comprendre finalement ces conduites, ces comportements, ces croyances et en rendre compte. Non pas peut-être qu'elle soit rationnelle en elle-même, mais en rendre compte rationnellement.
Voilà, alors ce qui est important, je crois, pour ces penseurs de la foi que sont Pascal ou Kierkegaard, c'est de dire justement que des raisons de croire ne sont pas nécessaires, surtout quand ces raisons sont le désir ou la peur. Je suis tellement pathétique, névrosée, que j'ai besoin de me sentir rassurée. Ces croyants veulent montrer que, comme la raison n'est pas toute puissante, on peut trouver peut-être en l'homme un besoin de spiritualité qui n'a rien à voir avec le désir d'une personne qui serait trop effrayée.
Alors, il est temps désormais de lever le stylo. Après avoir fait couler beaucoup d'encre, l'épreuve est désormais terminée. Merci beaucoup, Elisabeth, de t'être pliée à cet exercice.
Merci à vous et j'espère que vous trouverez de l'aide, et je vous souhaite bonne chance pour cette épreuve de philosophie du 18 juin.
Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 17h en compagnie de François Touchard pour une dernière émission consacrée au bac philo. Et la dissertation sera encore à l'honneur. Le sujet, la politique est-elle l'affaire de tous ? À demain.